Chapitre 8. Modeste avait entrevu le duc d'Hérouville pendant le séjour infructueux qu'il fit chez les Vilquin. Et en le voyant passer, toutes ses réflexions lui vinrent presque volontairement à l'esprit. Mais dans les circonstances où elle se trouvait, elle comprit combien la recherche du duc d'Hérouville était importante pour n'être à la merci d'aucun Canalis. « Je ne vois pas pourquoi, dit-elle à la Tournelle, le duc d'Hérouville ne serait pas admis. Je passe, malgré notre indigence, reprit-elle en regardant son père avec malice, à l'état d'héritière. Aussi finirai-je par publier un programme. N'avez-vous pas vu combien les regards de Goguenheim ont changé depuis une semaine? Il est au désespoir de ne pas pouvoir mettre ses parties de whist sur le compte d'une adoration muette de ma personne. Chut, mon cœur, dit Madame Latournelle, le voici. Oh, le père Alter est au désespoir, dit Goguenheim à M. Mignon en entrant. Et pourquoi? Demanda le comte de la Bastille. « Oh, Vilquin, dit-on, va manquer, et la bourse vous croit riche de plusieurs millions. »« On ne sait pas, répliqua Charles Mignon très sèchement, quels sont mes engagements aux Indes, et je ne me soucie pas de le mettre le public dans la confidence de mes affaires. »« Dumais, dit-il à l'oreille de son ami, si Vilquin est gêné, nous pourrions rentrer dans ma campagne, en lui rendant prix qu'il en a donné comptant. » Telles furent les préparations dues au hasard, au milieu desquelles, le dimanche matin, Canalis et la Bruyère arrivèrent un courrier en avant au pavillon de Madame Amaury. On apprit que le duc d'Hérouville, sa sœur et sa tante devaient arriver le mardi, sous prétexte de santé, dans une maison louée à Granville. Ce concours fit dire à la bourse que, grâce à Mademoiselle Mignon, les loyers allaient hausser à Angouville. Elle en fera, si cela continue à l'hôpital, dit Mademoiselle Vilquin, la cadette au désespoir de ne pas être duchesse. L'éternelle comédie de l'héritière qui devait se jouer au chalet pourrait certes, dans les dispositions où se trouvait Modeste, et d'après sa plaisanterie, se nommer le programme d'une jeune fille, car elle était bien décidée, après la perte de ses illusions, à ne donner sa main qu'à l'homme dont les qualités la satisferaient pleinement. Le lendemain de leur arrivée, les deux rivaux, encore amis intimes, se préparèrent à faire leur entrée le soir au chalet. Ils avaient donné tout leur dimanche et le lundi matin à leur déballage, à la prise de possession du pavillon de Madame Amaury et aux arrangements que nécessite un séjour d'un mois. D'ailleurs, autorisé par son état d'apprenti ministre à se permettre bien des roueries, le poète calculait tout. Il voulut donc mettre à profit le tapage probable que devait faire son arrivée au Havre et dont quelques échos retentiraient au chalet. En sa qualité d'homme fatigué, Canalis ne sortit pas. La Bruyère alla deux fois se promener devant le chalet, car il aimait avec une sorte de désespoir. Il avait une terreur profonde d'avoir déplu. Son avenir lui semblait couvert de nuages épais. Les deux amis descendirent pour dîner le lundi, tous deux habillés pour la première visite, la plus importante de toutes. La Bruyère s'était mis comme il était le fameux dimanche à l'église, mais il se regardait comme le satellite d'un astre, et s'abonnait au hasard de sa situation. Canalis, lui, n'avait pas négligé l'habit noir, ni ses ordres, ni cette élégance de salon, perfectionnée dans ses relations avec la duchesse de Chaulieu, sa protectrice, et avec le plus beau monde du faubourg Saint-Germain. Toutes les minuties du dandysme, Canalis les avait observées, tandis que le pauvre La Bruyère allait se montrer dans le laisser-aller de l'homme sans espérance. En servant ses deux maîtres à table, Germain ne put s'empêcher de sourire de ce contraste. Au second service, il entra d'un air assez diplomatique, ou pour mieux dire inquiet. « Monsieur le baron, dit-il à Canalis et à demi-voix, Sait-il que monsieur le grand écuyer arrive à Graville pour se guérir de la même maladie qui tient monsieur de la Brière et monsieur le baron? Ah, le petit duc d'Hérouville, s'écria Canalis. Oui, monsieur, oui. Il viendrait pour mademoiselle de la Brise. Bastille? Demanda la Brière en rougissant. Oui, pour mademoiselle Mignon, répondit Germain. Mais nous sommes joués, s'écria Canalis en regardant la Brière. Ah, répliqua vivement Ernest, voilà le premier hindou que tu dis depuis notre départ. Jusqu'à présent, tu disais « je ». Tu me connais, répondit Melchior, en laissant échapper un éclat de rire. Mais nous ne sommes pas en état de lutter contre une charge de la couronne, contre le titre de duc et pair, ni contre les maux marais que le Conseil d'État vient d'attribuer. Sur mon rapport à la maison d'Hérouville. Sa seigneurie, dit la Brière avec une malice pleine de sérieux, t'offre une fiche de consolation dans la personne de sa sœur. En ce moment, on annonça monsieur le comte de la Bastille, les deux jeunes gens se levèrent en l'entendant, et la Brière alla vivement au-devant de lui pour lui présenter Canalis. « Je vais à vous rendre la visite que vous m'avez faite à Paris, » dit Charles Mignon au jeune référendaire, « et je savais, en venant ici, que j'aurais le double plaisir de voir un de nos grands poètes actuels. »« Grand, monsieur, » répondit le poète en souriant, « il ne peut y avoir rien de grand dans un siècle à qui le règne de Napoléon sert de préface. Nous sommes d'abord une peuplade de soi-disant grands poètes. » Puis les talents secondaires jouent si bien le génie qu'ils ont rendu toute grande illusion astration impossible. Est-ce la raison qui vous jette dans la politique? Demanda le comte de la Bastille. Même chose dans cette sphère, dit le poète. Il n'y aura plus de grands hommes d'État. Il y aura seulement des hommes qui toucheront plus ou moins aux événements. Tenez, monsieur, sous le régime que nous a fait la charte, qui prend la cote des contributions pour une cote d'armes, il n'y a de solide que ce que vous êtes allé chercher en Chine, la fortune. » Satisfait de lui-même et content de l'impression qu'il faisait sur le futur beau-père, Melchior se tourna vers Germain. « Germain, vous servir le café dans le salon, » dit-il en invitant le négociant à quitter la salle à manger. « Je vous remercie, monsieur le comte, » dit alors la Brière, de me sauver ainsi l'embarras où j'étais pour introduire chez vous mon ami. Avec beaucoup d'âme, vous avez encore de l'esprit. Bon, l'esprit compte tous les Provençaux, dit Charles Mignon. Ah, oh, vous êtes de la Provence, s'écria Canalis. Excusez mon ami, dit la Brière, il n'a pas comme moi étudié l'histoire de la Bastille. À cette observation d'ami, Canalis jeta sur Ernest un regard profond. Si votre santé vous le permet, dit le Provençal au grand poète, je réclame l'honneur de vous recevoir ce soir sous mon toit. Ce sera une journée à marquer, comme dit l'ancien Albo Nodanda Lapillo. Quoi que nous soyons assez embarrassés de recevoir une si grande gloire dans une si petite maison. Vous satisferez l'impatience de ma fille, dont l'admiration pour vous va jusqu'à mettre vos vers en musique. Et vous avez mieux que la gloire, dit Canalis. Vous y possédez la beauté, s'il faut en croire Ernest. Oh, une bonne fille que vous trouverez bien provinciale, dit Charles. Une provinciale recherchée, dit-on, par le duc d'Hérouville, s'écria Canalis d'un ton sec. « Oh !» reprit M. Mignon, avec la perfide bonhomie du méridional, « je laisse ma fille libre. Les ducs, les princesses, les simples particuliers, tout m'est indifférent, même un homme de génie. Oh, je ne veux prendre aucun engagement, et le garçon que ma modeste choisira sera mon gendre, ou plutôt mon fils, » dit-il en regardant la Brière. « Que voulez-vous? Madame de la Bastille est allemande. » Elle ne menait point notre étiquette, et moi, je me laisse mener par mes deux femmes. J'ai toujours aimé mieux être dans la voiture que sur le siège. Nous pouvons parler de ces choses sérieuses en riant, car nous n'avons pas encore vu le duc d'Hérouville, et je ne crois pas plus au manœuvrage fait par procuration qu'au prétendu imposé par les parents. C'est une déclaration aussi désespérante qu'encourageante pour deux jeunes gens qui veulent chercher la pierre philosophale du bonheur dans le mariage, dit Canalis. Ne croyez-vous pas utile, nécessaire et politique, de stipuler la parfaite liberté des parents, de la fille et des prétendus ? Demanda Charles Mignon. Canalis, sur un regard de la Bruyère, garda le silence. La conversation devint banale, et après quelques tours de jardin, le père se retira, comptant sur la visite des deux amis. « Mais c'est notre congé !» s'écria Canalis. « Tu l'as compris comme moi. D'ailleurs, à sa place, moi je ne balancerai pas entre le grand écuyer et nous deux, quelque charmants que nous puissions être. »« Bon, je ne le pense pas, » répondit la Bruyère. « Je crois que ce brave soldat est venu pour satisfaire son impatience de te voir et nous déclarer sa neutralité tout en ouvrant sa maison. Modeste, éprise de ta gloire et trompée par ma personne, se trouve tout simplement entre la poésie et le positif. J'ai le malheur d'être le positif. » « Germain, » dit Canalis au valet de chambre qui venait servir le café, « faites atteler. » Dans une demi-heure, nous partons, nous nous promènerons avant d'aller au chalet. Les deux jeunes gens étaient aussi impatients l'un que l'autre de voir Modeste. Mais la Bruyère redoutait cette entrevue, et Canalis y marchait avec une confiance pleine de fatuité. L'élan d'Ernest vers le père et la flatterie par laquelle il venait de caresser l'orgueil nobiliaire du négociant, en faisant apercevoir la maladresse de Canalis, déterminèrent le poète à prendre un rôle, et Melchior résolut, tout en déployant ses séductions, de jouer l'indifférence, de paraître dédaigné Modeste, et de piquer ainsi l'amour-propre de la jeune fille. Élève de la belle duchesse de Chaulieu, il se montrait en ceci digne de sa réputation d'homme connaissant bien les femmes qu'il ne connaissait pas, comme il arrive à ceux qui sont les heureuses victimes d'une passion exclusive. Pendant que le pauvre Ernest, confiné dans son coin de calèche, abîmé dans les terreurs du véritable amour, et pressentant la colère, le mépris, le dédain, toutes les foudres d'une jeune fille blessée et offensée, gardait un morne silence. Canalis se préparait non moins silencieusement, comme un acteur prêt à jouer un rôle important dans quelque pièce nouvelle. Certes, ni l'un ni l'autre, ils ne ressemblaient à deux hommes heureux. Il s'agissait d'ailleurs pour Canalis d'intérêts graves. Pour lui, la seule velléité du mariage emportait la rupture de l'amitié sérieuse qui le liait depuis 10 ans bientôt à la duchesse de Chaulieu. Quoi qu'il eût coloré son voyage par le vulgaire prétexte de ses fatigues auxquelles les femmes ne croient jamais, même quand il est vrai, sa conscience se tourmentait un peu. Mais le mot « conscience » parut si jésuitique à la Bruyère qu'il haussa les épaules quand le poète lui fit part de ses scrupules. « Ta conscience, mon ami, me semble tout bonnement la crainte de perdre des plaisirs de vanité, des avantages très réels et une habitude en perdant l'affection de madame de Chaulieu. Car si tu réussis auprès de Modeste, tu renonceras sans regret au fade regain d'une passion très fauchée depuis 8 ans. Dis que tu trembles de déplaire à ta protectrice, si elle apprend le motif de ton séjour ici, je te croirai facilement. Mais renoncer à la duchesse et ne pas réussir au chalet, c'est jouer trop gros jeu. Tu prends l'effet de cette alternative pour des remords. Tu ne comprends rien au sentiment, dit Canalis, impatienté comme un homme à qui l'on dit la vérité quand il demande un compliment. Ben, c'est ce qu'un bigame devrait répondre à 12 jurés, répliqua la Bruyère en riant. Cet épigramme fit encore une impression désagréable sur Canalis. Il trouva la Bruyère trop spirituelle et trop libre pour un secrétaire. L'arrivée d'une calèche splendide, conduite par un cocher à la livrée de Canalis, fit d'autant plus de sensation au chalet que l'on attendait les deux prétendants et que tous les personnages de cette histoire, moins le duc et Butscha, s'y trouvaient. « Lequel est le poète ?» demanda Madame Latournelle à Dumay dans l'embrasure de la croisée où elle vint se poster au bruit de la voiture. « C'est celui qui marche en tambour-major, » répondit le caissier. « Oh !» dit la notaresse en examinant Melchior, qui se balançait en homme regardé. Quoique trop sévère, l'appréciation de Dumay, homme, simple s'il en fut, avait quelque justesse. Par la faute de la grande dame qui le flattait excessivement et le gâtait, comme toutes les femmes plus âgées que leurs adorateurs les flatteront et les gâteront toujours, Carnalice était alors, au moral, une espèce de Narcisse. Une femme d'un certain âge qui veut s'attacher à jamais à un homme commence par en diviniser les défauts, afin de rendre impossible toute rivalité. Car une rivale n'est pas de prime abord dans le secret de cette super fine flatterie à laquelle un homme s'habitue assez facilement. Les faits sont le produit de ce travail féminin, quand ils ne sont pas faits de naissance. Canalis, pris jeune par la belle duchesse de Chaulieu, se justifia donc à lui-même ses affectations en se disant qu'elle plaisait à cette femme dont le goût faisait loi. Quoique ces nuances soient d'une excessive délicatesse, il n'est pas impossible de les indiquer. Ainsi, Melchior possédait un talent de lecture fort admiré que notre complaisant éloge avait amené dans une voie d'exagération où ni le poète ni l'acteur ne s'arrêtent et qui fit dire de lui, toujours par de Marsay, qui ne déclamait pas mais qu'il bramait ses vers tant il allongeait les sons en s'écoutant lui-même. En argot de coulisses, Canalis prenait des temps un peu longuets. Il se permettait des œillades interrogatives à son public, des pauses de satisfaction et ses ressources de jeu appelées par les acteurs des balançoires, expression pittoresque comme tout ce qui crée le peuple artiste. Canalis eut d'ailleurs des imitateurs et fut chef d'école en ce genre. Cette emphase de mélopée avait légèrement atteint sa conversation. Il y portait un ton déclamatoire, ainsi qu'on l'a vu dans son entretien avec Dumay. Une fois l'esprit devenu comme ultra coquet, les manières s'en ressentirent. Aussi Canalis avait-il fini par scander sa démarche, inventer des attitudes, se regarder à la dérobée dans les glaces et faire concorder ses discours à la façon dont il se campait. Il se préoccupait tant de l'effet à produire que plus d'une fois un railleur, Blondet, avait parié, l'interloqué et avec succès, en dirigeant un regard obstiné sur la frisure du poète, sur ses bottes ou sur les basques de son habit. Après 10 années, ses grâces, qui commencèrent par avoir pour passeport une jeunesse florissante, était devenue d'autant plus vieillotte que Melchior paraissait usé. La vie du monde est aussi fatigante pour les hommes que pour les femmes, et peut-être les 20 années que la duchesse avait de plus que Canalis pesaient-elles plus sur lui que sur elle, car le monde la voyait toujours belle, sans rides, sans rouge et sans cœur. Hélas, ni les hommes ni les femmes n'ont d'amis pour les avertir au moment où le parfum de leur modestie se rancit, où la caresse de leur regard est comme une tradition de théâtre, où l'expression de leur visage se change en minauderie et où les artifices de leur esprit laissent apercevoir leur carcasse roussie. Il n'y a que le génie qui sache se renouveler comme le serpent. Et en fait de grâce, comme en tout, il n'y a que le cœur qui ne vieillisse pas. Les gens de cœur sont simples. Or, Canalis, vous le savez, a le cœur sec. Il abusait de la beauté de son regard, lui donnant hors de propos la fixité que la méditation prête aux yeux. Enfin, pour lui, les éloges étaient un commerce où il voulait trop gagner. Sa manière de complimenter, charmante pour les gens superficiels, pouvait aux gens délicats paraître insultante par sa banalité, par l'aplomb d'une flatterie où l'on devinait d'un parti pris. En effet, Melchior mentait comme un courtisan. Il avait dit sans pudeur au duc de Chaulieu, qui fit peu d'effet à la tribune quand il fut obligé d'y monter comme ministre des Affaires étrangères, « Votre Excellence a été sublime !» Combien d'hommes eussent été, comme Canalvis, opérés de leur affectation par l'insuccès administré par petite dose. Ses défauts, assez légers dans les salons adorés du Faubourg Saint-Germain, où chacun apporte avec exactitude sa quote-part de ridicule, et où cette espèce de jactance d'apprêt de tension, si vous voulez, a pour cadre un luxe excessif, des toilettes somptueuses, qui peut-être en sont l'excuse, devait trancher énormément au fond de la province, dont les ridicules appartiennent à un genre opposé. Canalis, à la fois tendu et maniéré, ne pouvait d'ailleurs point se métamorphoser. Il avait eu le temps de se refroidir dans le moule où l'avait jeté la duchesse. Et de plus, il était très parisien, ou si vous voulez, très français. Le parisien s'étonne que tu ne sois pas partout comme à Paris, et le français comme en France. Le bon goût consiste à se conformer aux manières des étrangers, sans néanmoins trop perdre de son caractère propre, comme le faisait Alcibiade, ce modèle de gentleman. La véritable grâce est élastique. Elle se prête à toutes les circonstances. Elle est en harmonie avec tous les milieux sociaux. Elle sait mettre une robe de petite étoffe, remarquable seulement par la façon pour aller dans la rue, au lieu d'y traîner les plumes et les ramages éclatants que certaines bourgeoises y promènent. Or, Canalis, conseillé par une femme qu'il aimait plus pour elle que pour lui-même, voulait faire loi, être partout ce qu'il était, et il croyait, erreur que partagent quelques-uns des grands hommes de Paris, porter son public particulier avec lui. Tandis que le poète accomplissait au salon une entrée étudiée, la Bruyère s'y glissa comme un chien qui craint de recevoir des coups. Eh, voilà mon soldat, dit Canalis en apercevant Dumais, après avoir adressé un compliment à Madame Mignon et salué les femmes. Vos inquiétudes sont calmées, n'est-ce pas ? Reprit-il en lui tendant la main avec emphase. Mais à l'aspect de mademoiselle, on les conçoit dans toute leur étendue. Oh, je parlais des créatures terrestres et non des anges. Chacun, par son attitude, demandait le mot de cette énigme. Oh, je compterai comme un triomphe, reprit le poète en comprenant l'explication que chacun désirait, d'avoir ému l'un de ces hommes de fer que Napoléon avait su trouver pour en faire le pilotis sur lequel il essaya de fonder un empire trop colossal pour être durable. À de telles choses, le temps seul peut servir de ciment. Mais est-ce bien un triomphe dont je dois m'enorgueillir ? Je n'y suis pour rien. Ce fut le triomphe de l'idée sur le fait de vos batailles, mon cher monsieur Dunay, vos charges héroïques, monsieur le comte, enfin, la guerre, fut la forme qu'empruntait la pensée de Napoléon. De toutes ces choses, qu'en reste-t-il ? L'herbe qui les couvre n'en sait rien, les moissons n'en diraient pas la place, et sans l'historien, sans notre écriture, l'avenir ignorerait ce temps héroïque. Ainsi, vos 15 ans de lutte ne sont plus que des idées, et c'est ce qui sauvera l'Empire. Les poètes en feront un poème. Un pays qui sait gagner de telles batailles doit savoir les chanter. Canalis s'arrêta pour recueillir, par un regard jeté sur les figures, le tribut d'étonnement que lui devaient les provinciaux. Vous ne pouvez pas douter, monsieur, du chagrin que j'ai de ne pas vous voir, dit Madame Mignon, à la manière dont vous me dédommagez par le plaisir que vous me donnez à vous écouter. Décidé à trouver Canalis sublime, Modeste, mise comme elle l'était le jour où cette héroïne histoire commença, restait ébahie et avait lâché sa broderie qui ne tenait plus à ses doigts que par l'aiguillet de coton. « Modeste, voici monsieur de la Bruyère, Monsieur Ernest, voici ma fille, dit Charles en trouvant le secrétaire un peu trop humblement placé. La jeune fille salua froidement Ernest en lui jetant un regard qui devait prouver à tout le monde qu'elle le voyait pour la première fois. « Pardon, monsieur, lui dit-elle sans rougir, la vive admiration que je professe pour le plus grand de nos poètes est aux yeux de mes amis une excuse suffisante de n'avoir aperçu que lui. » Cette voix fraîche et accentuée comme celle si célèbre de Mademoiselle Mars charma le pauvre référendaire, déjà ébloui de la beauté de Modeste, et il répondit dans sa surprise un mot sublime, s'il eût été vrai. « Mais c'est mon ami, dit-il. « Alors, vous m'avez pardonné, répliqua-t-elle. « Oh, mais c'est plus qu'un ami, s'écria Canalis en prenant Ernest par l'épaule et s'y appuyant comme Alexandre sur Héphaestion. « Nous nous aimons comme deux frères. » Madame Latournelle coupa net la parole au grand poète en montrant Ernest au petit notaire et lui disant « Mais monsieur, n'est-il pas l'inconnu que nous avons vu à l'église ?»« Et pourquoi pas ?» répliqua Charles Mignon en voyant rougir Ernest. Modeste demeura froide et reprit sa broderie. « Madame peut avoir raison, je suis venu deux fois au Havre, » répondit la Bruyère, qui s'assit d'un côté de Dumay. Canalis, émerveillé de la beauté de Modeste, se méprit à l'admiration qu'elle exprimait et se flatta d'avoir complètement réussi dans ses effets. « Je croirais un homme de génie sans cœur s'il n'avait pas auprès de lui quelque amitié dévouée, » dit Modeste pour relever la conversation, interrompue par la maladresse de Madame Latournelle. « Mademoiselle, le dévouement d'Ernest pourrait me faire croire que je vaux quelque chose, » dit Canalis, « car ce cher Pylade est rempli de talent. » Il a été la moitié du plus grand ministre que nous ayons eu depuis la paix. Quoiqu'il occupe une magnifique position, il a consenti à être mon précepteur en politique. Il m'apprend les affaires, il me nourrit son expérience, tandis qu'il pourrait aspirer à de plus hautes destinées. Oh, il vaut mieux que moi !» Et un geste que fit Modeste, Melchior dit avec grâce, « La poésie que j'exprime, il l'a dans le cœur. Et si je parle ainsi devant lui, c'est qu'il a la modestie d'une religieuse. Mais c'est assez, dit la Bruyère, qui ne savait quelle contenance tenir. Tu as l'air, mon cher, d'une mère qui veut marier sa fille. Et comment, monsieur, dit Charles Mignon en s'adressant à Canalis, pouvez-vous penser à devenir un homme politique? Pour un poète, c'est abdiqué, dit Modeste. La politique est la ressource des hommes positifs. Oh, mademoiselle, aujourd'hui, la tribune est le plus grand théâtre du monde. Elle a remplacé le champ clos de la chevalerie. Elle sera le rendez-vous de toutes les intelligences, comme l'armée était naguère celui de tous les courages. Et Canalis enfourcha son cheval de bataille. Il parla pendant 10 minutes sur la politique. La poésie était la préface de l'homme d'État. Aujourd'hui, l'orateur devait être un généralisateur sublime, le pasteur des idées. Quand le poète pouvait indiquer à son pays le chemin de l'avenir, cessait-il donc d'être lui-même? Il cita Chateaubriand, prétendant qu'il serait un jour plus considérable par le côté politique que par le côté littéraire. La tribune française allait être le phare de l'humanité. Maintenant, les luttes orales auraient remplacé celles du champ de bataille. Telle séance de la Chambre valait Austerlitz, et les orateurs s'y montraient à la hauteur des généraux. Ils y perdaient autant d'existence, de courage, de force. Ils s'y usaient autant que ceux-ci à faire la guerre. La parole n'est-elle pas une des plus effrayantes prodigalités de fluide vital que l'homme pouvait se permettre, etc., etc., etc. Cette improvisation, composée des lieux communs modernes, mais revêtue d'expressions sonores, de mots nouveaux, est destinée à prouver que le baron de Canalis devait être un jour une des gloires de la tribune, produisit une profonde impression sur le notaire, sur Gobenheim, sur Madame de la Tournelle et sur Madame Mignon. Modeste était comme un spectacle et enthousiaste de l'acteur, absolument comme Ernest devant elle. Car si le référendaire savait toutes ces phrases par cœur, il écoutait par les yeux de la jeune fille en s'en éprenant à devenir fou. Pour cet amoureux vrai, Modeste venait d'éclipser les différentes Modestes qu'il avait créées en lisant ses lettres ou en y répondant. Cette visite, dont la durée fut déterminée à l'avance par Canalis, qui ne voulait pas laisser à ses admirateurs le temps de se blaser, finit par une invitation à dîner pour le lundi suivant. « Nous ne serons plus au chalet, » dit le comte de la Bastille. « Il en devient l'habitation de Dumay. Je rentre dans mon ancienne maison par un contrat à rémunérer de 6 mois de durée que j'ai signé tout à l'heure avec M. Vilquin chez mon ami La Tournelle. « Je souhaite, dit Dumay, que Vilquin ne puisse pas vous rendre la somme que vous venez de lui prêter. « Vous serez là, dit Canalis, dans une demeure en harmonie avec votre fortune. « Pas avec la fortune qu'on me suppose, répondit vivement Charles Mignon. « Il serait malheureux, dit Canalis en se retournant vers Modeste et en faisant un salut charmant, que cette madone n'eût pas un cadre digne de ses divines perfections. » Ce fut tout ce que Canalis dit de Modeste, car il avait affecté de ne pas la regarder et de se comporter en homme à qui toute idée de mariage était interdite. « Ah, oh, ma chère Madame Mignon, il a bien de l'esprit !» dit la notairesse au moment où les deux Parisiens faisaient crier le sable du jardinet sous leurs pieds. « Mais est-il riche ? Voilà la question !» répondit Guggenheim. Modeste était à la fenêtre, ne perdant pas un seul des mouvements du grand poète et n'ayant pas un regard pour Ernest de la Brière. Quand M. Mignon entra, quand Modeste, après avoir reçu le dernier salut des deux amis, lorsque la calèche tourna, se fut remise à sa place, il eut une de ces profondes discussions comme en font les gens de la province sur les gens de Paris, à une première entrevue. Guggenheim répéta son mot. « Est-il riche ?» au concert des loges que firent Madame Latournelle, Modeste et sa mère. « Riche, » répondit Modeste, « et qu'importe, ne voyez-vous pas que M. de Canalis est un de ces hommes destinés à occuper les plus hautes places dans l'État ? Il a plus que de la fortune et il possède les moyens de la fortune. »« Oh, il sera ministre ou ambassadeur, » dit M. Mignon. Les contribuables pourraient tout de même avoir à payer les frais de son enterrement, dit le petit Latournelle. Et pourquoi ? Dit Charles Mignon. Il me paraît homme à manger toutes les fortunes dont les moyens lui sont si bien accordés par Mademoiselle Modeste. Mais comment Modeste ne serait-elle pas libérale en faire un poète qui la traite de madone ? Dit le petit Dumay, fidèle à la répulsion que Canalis lui avait inspirée. Guggenheim apprêtait la table de whist avec d'autant plus de persistance que depuis le retour de M. Mignon, Latournelle et Dumay s'étaient laissés aller à jouer 10 fois, 10 sous la fiche. « Eh bien, mon petit ange, » dit le père à sa fille dans l'embrasure d'une fenêtre, « avoue que papa pense à tout. En 8 jours, si tu donnes tes ordres, ce soir à ton ancienne couturière de Paris, et à tous les fournisseurs, tu pourras te montrer dans toute ta splendeur d'une héritière, de même que j'aurai le temps de nous installer dans notre maison. Tu as un joli poney, songe à lui faire faire un court costume de cheval. Le grand écuyer mérite cette attention. D'autant plus que nous avons du monde à promener, dit Modeste, sur les joues de qui reapparaissaient les couleurs de la santé. « Le secrétaire, dit Madame Mignon, n'a pas dit grand-chose. »« C'est un petit sot, répondit Madame Latournelle. Le poète a dû faire attention pour tout le monde. Il a su remercier Latournelle de ses soins pour la location de son pavillon, en me disant qu'il semblait avoir consulté le goût d'une femme. Et l'autre restait là, sombre comme un espagnol, les yeux fixés, ayant l'air de vouloir avaler Modeste. S'il m'avait regardé, il m'aurait fait peur. Il a un joli son de voix, répondit Madame Mignon. Il sera sans doute venu prendre des renseignements sur la maison Mignon, pour le compte du poète, dit Modeste, en guignant son père, car c'est bien lui que nous avons vu dans l'église. Madame Dumay, Madame et Monsieur Latournelle acceptèrent cette façon d'expliquer le voyage d'Ernest. « Sais-tu, Ernest, s'écria Canalis à 20 pas du chalet, que je ne vois pas dans le monde à Paris une seule personne à marier comparable à cette adorable fille. » « Et tout est dit, répliqua la Brière avec une amertume concentrée. Elle t'aime, ou si tu le veux, elle t'aimera. Ta gloire fait la moitié de chemin. Bref, tout est à ta disposition. Tu retourneras là, seul. Modeste a pour moi le plus profond mépris et la raison. Et je ne vois pas pourquoi je me condamnerais au supplice d'aller admirer, désirer, adorer ce que je ne puis jamais posséder. » Après quelques propos de condoléances, où perçait la satisfaction d'avoir fait une nouvelle édition de la phrase de César, Canalis laissa voir le désir d'en finir avec la duchesse de Chaulieu. La Bruyère, ne pouvant supporter cette conversation, allégua la beauté d'une nuit douteuse pour se faire mettre à terre et courut comme un insensé vers la côte où il resta jusqu'à 10h30, en proie à une espèce de démence, tantôt marchant à pas précipités et se livrant à des monologues, tantôt restant debout, s'asseyant, sans s'apercevoir de l'inquiétude qui donnait à deux douaniers en observation. Après avoir aimé la spirituelle instruction et la candeur agressive de Modeste, il venait de joindre l'adoration de la beauté, c'est-à-dire l'amour sans raison, l'amour inexplicable, à toutes les raisons qu'il avait amenées 10 jours auparavant dans l'église du Havre. Il revint au chalet, où les chiens des Pyrénées aboyèrent tellement après lui qu'il ne put s'adonner au plaisir de contempler les fenêtres de Modeste. En amour, toutes ces choses ne comptent pas plus à l'amant que les travaux couverts par la dernière couche ne compte au peintre. Mais elles sont tout l'amour, comme les peines enfouies sont l'air tout entier. Il en sort un grand peintre et un amant véritable, que la femme et le public finissent souvent, mais trop tard, par adorer. « Eh bien, s'écria-t-il, je resterai, je souffrirai. Je la verrai, je l'aimerai pour moi seul, égoïstement. Modeste sera mon soleil, ma vie, je respirerai par son souffle, je jouirai de ses joies, je maigrirai de ses chagrins. » Fut-elle la femme de cet égoïste de Canalis. « Voilà ce qui s'appelle aimer, monsieur, » dit une voix qui partit d'un buisson sur le bord du chemin. « Ah, ça, tout le monde aime donc Mademoiselle de la Bastille ?» Nebucha se montra soudain. Il regarda la Brière. La Brière rengaina sa colère en toisant le nain à la clarté de la lune. Il fit quelques pas sans lui répondre. « Entre soldats qui servent dans la même compagnie, on devrait être un peu plus camarades que ça, » dit Butcha. « Si vous n'aimez pas Canalis, moi, je n'en suis pas fou non plus. » Mais c'est mon ami, répondit Ernest. Ah oui, vous êtes le petit secrétaire, répliqua le nain. Sachez, monsieur, répliqua la Bruyère, que je ne suis le secrétaire de personne. J'ai l'honneur d'être conseiller à l'une des cours suprêmes du royaume. Mais j'ai l'honneur de saluer monsieur de la Bruyère, dit Butcha. « Moi, j'ai l'honneur d'être premier clerc de Maître Latournelle, conseiller suprême du Havre, et j'ai certes une plus belle position que la vôtre. Oui, mais j'ai eu le bonheur de voir Mademoiselle Modeste de la Bastille presque tous les soirs, depuis 4 ans. Et je compte vivre auprès d'elle comme un domestique du roi, vite aux Tuileries. On m'offrirait le trône de Russie, je dirais. Non, j'aime trop le soleil. N'est-ce pas vous dire, monsieur, que je m'intéresse à elle plus qu'à moi-même? En bien tout honneur, évidemment. Croyez-vous que l'altière duchesse de Chaulieu verra d'un bon œil le bonheur de madame de Canalis quand sa femme de chambre, amoureuse de monsieur Germain, inquiète déjà du séjour que fait au Havre ce charmant valet de chambre, se plaindra, tout en coiffant sa maîtresse, de... Mais comment savez-vous ces choses-là ? Dit la Bruyère en interrompant Butchat. D'abord, je suis clerc de notaire, répondit Butchat. Mais vous n'avez donc pas vu ma bosse ? Elle est pleine d'inventions, monsieur. Je me suis fait le cousin de mademoiselle Philoxène Jacquemin, née à Honfleur, où naquit ma mère. Une Jacquemin, il y a 11 branches de Jacquemin à Honfleur. Donc ma cousine, alléchée par un héritage improbable, m'a raconté bien des choses. Mais la duchesse est vindicative, dit la Bruyère. Mais comme une reine, m'a dit Philoxène, elle n'a pas encore pardonné à monsieur le duc de n'être que son mari, répliqua Butchat. Elle hait comme elle aime. Oh, je suis au fait de son caractère, de sa toilette, de ses goûts, de sa religion et de ses petitesses, car Philoxène me l'a déshabillée, âme et corset. Je suis allé à l'opéra pour voir madame de Chaulieu. Je n'ai pas regretté mes 10 francs. Oh, je ne parle pas du spectacle. Mais si ma prétendue cousine ne m'avait pas dit que sa maîtresse comptait 50 printemps, j'aurais cru être bien généreux en lui en donnant 30. Elle n'a pas connu d'hiver, cette duchesse-là. Oui, reprit la Bruyère, c'est un camé conservé par son caillou. Canalis serait bien embarrassé si la duchesse savait ses projets. Et j'espère, monsieur, que vous en resterez là de cet espionnage, indigne d'un honnête homme. Mais monsieur, reprit Butchat fièrement, pour moi, modeste, c'est l'État. Je n'espionne pas, je prévois. La duchesse viendra s'il le faut, ou restera dans sa tranquillité, si je le juge convenable. Et vous, moi? Et par quel moyen? Dit la Bruyère. Ah, voilà, dit le petit bossu qui prit un brin d'herbe. Tenez, voyez, ce Gramen prétend que l'homme construit ses palais pour le loger, et il fait choir un jour les marbres les plus solidement assemblés, comme le peuple, introduit dans l'édifice de la féodalité, l'a jeté par terre. La puissance du faible qui peut se glisser partout est plus grande que celle du fort qui se repose sur ses canons. Nous sommes 3 Suisses qui avons juré que Modeste serait heureuse et qui vendrions notre honneur pour elle. Adieu, monsieur, si vous aimez mademoiselle de la Bastille. Oubliez cette conversation et donnez-moi une poignée de main, car vous me semblez avoir du cœur. Il me tardait de voir le chalet, j'y suis arrivé comme elle soufflait sa bougie. Je vous ai vu signaler par les chiens, dont je vous ai entendu rageant. Aussi j'ai pris la liberté de vous dire que nous servons dans le même régiment, celui de royal dévouement. Eh bien, répondit la Bruyère en serrant la main du bossu, faites-moi l'amitié de me dire si mademoiselle Modeste a jamais aimé quelqu'un d'amour avant sa correspondance secrète avec Canalis. Oh, s'écria sourdement Butchat, mais le doute est une injure. Et maintenant encore, qui sait si elle aime? Le sait-elle elle-même? Elle s'est passionnée pour l'esprit, pour le génie, pour l'âme de ce marchand de stances, de ce vendeur d'orviettes littéraires. Mais elle l'étudiera, nous l'étudierons. Oh, je saurais bien faire sortir le caractère vrai de dessous la carapace de l'homme à belle manière. Et nous verrons la tête menue de son ambition, de sa vanité, dit Butchat, qui se frotta les mains. Oh, à moins que mademoiselle n'en soit folle à en mourir. Bon, elle est restée en admiration devant lui, comme devant une merveille, s'écria la Bruyère en laissant échapper le secret de sa jalousie. Oh, si c'est d'un brave garçon, loyal et s'il aime, s'il est digne d'elle, reprit Butchat, s'il renonce à la duchesse, C'est la duchesse que j'entortillerai. Tenez, mon cher monsieur, suivez ce chemin, vous êtes chez vous en 10 minutes. » Butcha revint sur ses pas, et là le pauvre Ernest, qui, en sa qualité d'amoureux véritable, serait resté pendant toute la nuit à causer de Modeste. « Monsieur, lui dit Butcha, je n'ai pas eu l'honneur de voir encore votre grand poète. Je suis curieux d'observer ce magnifique phénomène dans l'existence de ses fonctions. Rendez-moi le service de venir passer la soirée après-demain au chalet. Restez-y longtemps, car ce n'est pas en une heure qu'un homme se développe. Je saurai, moi le premier, s'il aime ou s'il peut aimer ou s'il aimera Mademoiselle Modeste. Oh, vous êtes bien jeune pour être professeur, reprit Butcha, qui coupa la parole à la Bruyère. Eh, monsieur, les avortons naissent tous centenaires. Puis, tenez, un malade, quand il est longtemps malade, devient plus fort que son médecin. Il s'entend avec la maladie, ce qui n'arrive pas toujours au docteur consciencieux. Et bien de même, un homme qui chérit la femme et que la femme doit mépriser sous prétexte de laideur ou de gibbosité, finit par si bien se connaître en amour qu'il passe séducteur, comme le malade finit par recouvrer la santé. La sottise seule est incurable. Depuis l'âge de 6 ans, j'en ai 25, je n'ai ni père ni mère. J'ai la charité publique pour mère et le procureur du roi pour père. Non, soyez tranquille, dit-il à un geste d'Ernest. Je suis plus gai que ma position. Eh bien, depuis 6 ans, que le regard insolent d'une bonne de Madame Latournelle m'a dit que j'avais tort de vouloir aimer, j'aime, et j'étudie les femmes. J'ai commencé par les laides, il faut toujours attaquer le taureau par les cornes. Aussi ai-je pris pour premier objet d'étude ma patronne, qui certes est d'un âge pour moi, mais j'ai peut-être eu tort. Mais que voulez-vous ? Je l'ai passé à son alambic et j'ai fini par découvrir, tapis au fond de son cœur, cette pensée. Je ne suis pas si mal qu'on le croit. Et malgré sa piété profonde, en exploitant cette idée, j'aurais pu la conduire jusqu'au bord de l'abîme pour l'y laisser. Et avez-vous étudié, Modeste ? Je croyais vous avoir dit, répliqua le bossu, que ma vie est à elle, comme la France est au roi. Comprenez-vous mon espionnage à Paris maintenant ? Personne que moi ne sait tout ce qu'il y a de noblesse, de fierté, de dévouement, de grâce imprévue, d'infatigable bonté, de vraie religion, de gaieté, d'instruction, de finesse, d'affabilité dans l'âme et dans le cœur et dans l'esprit de cette adorable créature. » Et Butcha tira son mouchoir pour étancher 2 larmes, et la Bruyère lui serra la main longtemps. « Je vivrai dans son rayonnement. Ça commence à elle et ça finit en moi. Voilà comment nous sommes unis à peu près, comme est la nature à Dieu par la lumière et le Verbe. Allez, adieu, monsieur, je n'ai jamais dans ma vie tant bavardé, mais en vous voyant devant ces fenêtres, j'ai deviné que vous l'aimiez à ma manière. » Sans attendre la réponse, Butcha quitta le pauvre amant à qui cette conversation avait mis je ne sais quel baume au cœur. Ernest résolut de se faire un ami de Butcha, sans se douter que la loquacité du clerc avait eu pour but principal de se ménager des intelligences chez Canalis. Dans quel flux et reflux de pensées, de résolutions, de plans de conduite, Ernest ne fut-il pas bercé avant de sommeiller ? Et son ami Canalis dormait, lui, du sommeil des triomphateurs, le plus doux des sommeils après celui des justes.